RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille un immense joueur français, un immense palmarès et surtout un grand ami depuis plus de 20 ans. Quelqu'un qui a réussi à écrire les plus belles lignes du tennis français, quelqu'un qui a réussi à battre et Roger Federer et Rafael Nadal et Novak Djokovic, excusez-nous du peu, quelqu'un qui a remporté 2 Master 1000 en battant justement Roger Federer en finale du Master 1000 de Toronto. Il a remporté le Master 1000 de Paris-Bercy, il a remporté la Coupe Davis en 2017, il a fini 6 fois l'année dans le top 10, il a joué 3 Masters de fin d'année en 2008, 2011 et 2012. Il a atteint son meilleur classement le 27 février 2012 en étant 5e mondial. 261 semelles dans le top 10 et je pourrais continuer des lignes et des lignes, mais c'est surtout un grand monsieur. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans Bartoli Time, Joe Wilfried Tsonga. Bonjour Joe.
Bonjour Marion.
Bonjour Joe Wilfried.
Bon, ça fait beaucoup tout ce que t'as dit quand même. Hein,
et attends, j'ai coupé. J'en avais 7 pages de plus, là j'ai fait qu'un résumé sur une page, tu vois.
Je me sentais donc, mal pendant que t'énumérais tout ça, je me disais... Oh là,
ah
là,
bah écoute, t'avais qu'à pas gagner autant, qu'est-ce que tu veux que je te dise. T'avais qu'à pas autant gagner, t'avais qu'à pas atteindre autant de finales de tournoi du Grand Chelem, de demi-finale et de quart de finale. Joe, en ce moment, c'est l'US Open. Quand je t'évoque le nom de l'US Open, quel est le premier souvenir comme ça qui te revient en tête?
Alors le premier souvenir qui me revient en tête, bah, c'est je crois la toute première fois où j'ai... Il y en a deux.
Ah,
il y a
vas-y.
Évidemment la première fois où j'ai joué en junior. J'ai eu la chance de gagner l'US Open Junior. Ça a été pour moi une vraie révélation parce que
ça a été en
2003.
Et
c'était un moment dans ma carrière où en fait, tu le sais comme moi, on arrive à 17, 18 ans, on se pose un peu des questions sur notre avenir, sur ce qu'on a envie de faire. Et,
ouais.
Et c'est vrai que moi j'adorais le tennis, évidemment, j'avais envie de faire du tennis, mais c'est venu un peu appuyer le fait que certainement je faisais partie de ceux qui pouvaient aller loin et éventuellement rentrer dans le top 100, top 50 et peut-être plus.
T'as pris un petit peu conscience de ton potentiel finalement en remportant cette US Open Junior?
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Tu te rappelles qui tu as battu en finale?
J'avais battu Marcos Baghdatis.
Ouais, tu vois, c'est tous les deux une très grande carrière derrière.
Ouais, tout à fait. Et le deuxième, c'est la première fois que j'ai joué finalement l'US Open chez les professionnels. J'étais dans les qualifications.
Ouais.
J'avais perdu contre Jérôme Golmar au premier ou deuxième tour des qualifications à l'époque. Donc ça reste pour moi un immense souvenir parce que moi Jérôme je le regardais à la télé et puis c'est vrai que c'était un joueur qui m'impressionnait beaucoup et je me rappelle que pendant ces qualifications j'avais eu des problèmes d'hôtel, j'avais dû dormir chez l'habitant à New York et
ah
un
non,
habitant
arrête.
Avec qui je suis
c'était
resté
passé
ami
quoi
après toute ma vie jusqu'à aujourd'hui.
C'est fou comme histoire, mais qu'est-ce qui s'était passé avec ton hôtel?
En fait, on avait eu des problèmes de réservation. On était 3 joueurs français.
Ouais.
Quand on arrivait à l'hôtel, ils nous ont dit, en fait, fallait qu'on confirme notre réservation, ce qu'on n'avait pas fait évidemment, étant tout jeune.
Et problème d'organisation.
Voilà, exactement. On s'est retrouvés à 20h en arrivant à l'hôtel, sans hôtel, et c'était une semaine de la Fashion Week, et on s'est retrouvés en fait avec des hôtels où c'était beaucoup trop cher pour nous, et du coup, on savait pas trop quoi faire, et puis il y a un bon Samaritain qui nous a accueillis et qui nous a fait dormir dans un appartement avec des matelas par terre.
C'est hallucinant comme anecdote.
Ouais.
Justement, Joe Wilfried Tsonga, il est avec nous en direct par téléphone. Non, pas du tout. On l'a pas du tout retrouvé. On pensait pas qu'on allait aller là-dessus. Joe Wilfried, vous arrivez en ce moment à regarder l'US Open, allumer votre télé, installer dans le canapé, ou non, vous êtes passé à autre chose et vous avez pas forcément envie de regarder des matchs tout l'après-midi?
Alors c'est vrai que ça dépend des matchs en fait. Il y a des matchs évidemment qui m'intéressent. D'autres un peu moins, même si je suis on va dire un peu tous les résultats en live quand même, même si je regarde pas la télé, je suis évidemment connecté et je vois un peu les résultats. Je suis beaucoup les Français évidemment, et puis quelques joueurs étrangers que j'apprécie bien.
Joe, Serena vient de s'incliner, ça y est, c'était son dernier match à l'US Open. C'est forcément un moment extrêmement particulier dans une carrière. Est-ce que pour toi, Serena Williams restera quoi qu'il arrive la plus grande joueuse de tous les temps? Et comment tu peux nous la décrire en tant que champion qui l'a côtoyé et une personne avec qui tu as pu faire les tournois du Grand Chelem pendant plus de 15 ans, la côtoyer dans les vestiaires? Qu'est-ce qui te revient? Quel est le premier souvenir qui te vient quand tu parles de Serena Williams?
Quand je parle de Serena, finalement, c'est vrai qu'elle a toujours été hyper avenante, du moins avec moi, ça a toujours été, elle a vraiment été super. Elle était souriante. Plutôt sympa, elle s'intéressait beaucoup finalement aux autres aussi, elle n'était pas toujours que sur elle-même. Alors j'imagine que dans le tennis féminin forcément il y aura d'autres d'autres avis, ce que je peux comprendre.
C'était après, un peu plus tendu parfois dans les vestiaires,
un peu
écoute.
Plus tendu, je peux comprendre. Voilà, après comme je disais, c'est une immense championne, elle le restera quoi qu'il arrive. Je pense que elle a marqué toute une génération. Elle a une longévité qui est exceptionnelle et qui n'a pas été sans difficulté. Je pense qu'elle a traversé malgré tout beaucoup de choses dans sa vie d'adolescent, dans sa vie de jeune femme, dans sa vie de femme. Elle a une petite fille. C'est quelqu'un qui a vraiment une vie. On peut considérer qu'elle vit plusieurs vies à la fois. Et ça reste une grande personne.
Une grande championne, donc Serena Williams. Joe Wilfried Tsonga est avec nous dans Bartoli Time, l'invité exceptionnel ce dimanche pour vous, les auditeurs. Joe, on va évidemment parler de votre carrière, de cette fin aussi de carrière. 24 mai dernier Roland-Garros. Sur RMC, c'était Eric Salio qui commentait, et même lui, il a la voix qui tremble. Et c'est vrai que durant toute votre carrière, vous nous avez fait vibrer. Là particulièrement.
Il sert à 143, alors ce sont des crampes et les larmes arrivent sur le visage de Joe parce qu'il veut pas finir comme ça. Mm-hmm. Mais voilà, son corps le lâche, c'est extraordinaire.
Allez,
c'est une scène hallucinante. Ouais, évidemment, le public va le pousser, mais là, la situation est quasi désespérée. Joe tourne, 6-0, il faut tourner.
Au bout de 6 points en tie break,
incroyable,
côté,
il est ailleurs, hein. Il est ailleurs. Il ne sait pas qu'il faut tourner, c'est dingue.
Jeu 7 et match, et Joe va se diriger vers Casper Ruud. Ah, c'est une triste fin, mais 3h49, il nous a fait rêver jusqu'au bout. Et c'est à l'image de sa carrière. Un dernier match en guerrier. Voilà, la collade entre Ruud et Tsonga. Et voilà, il va lever le bras gauche une dernière fois. Je crois que le bras droit, il ne peut pas le lever. C'est fou.
Joe, quand je réécoute ce son, j'ai les larmes qui reviennent exactement comme j'ai pu les avoir au bord du terrain lorsque j'ai pu avoir la chance de vivre ces derniers points avec toi. Car pour moi, ce match est à l'image finalement de ce que tu es, c'est-à-dire quelqu'un de totalement entier, qui ne triche pas dans son engagement, dans tout ce qu'il fait. Tu as eu malheureusement effectivement cette blessure à l'épaule qui est venue un petit peu gâcher la fin de ce match, mais pendant tout ce match, on a retrouvé le plus profond de ta personnalité, et c'est ça qui m'a énormément ému. Quand tu réécoutes ce son, ou quand parfois tu repenses à ce match, Qu'est-ce qui revient pour toi? Quelles sont les premières sensations, moments de ce match en particulier qui te reviennent? Parce qu'encore une fois, pour moi, ce match te définit totalement en tant qu'être humain et sportif exceptionnel.
Alors, je sais pas, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est vrai que pour moi, c'est jamais simple en fait de parler de tout ça. Là, les leçons qu'on vient d'écouter, évidemment, je l'ai jamais écouté, puisque j'ai rien écouté, j'ai rien regardé depuis que j'ai arrêté. Les seules choses que j'ai pu voir, c'est ce qu'on m'a montré finalement, ce qu'on m'a montré dans les différentes émissions. Alors c'était des images un peu en boucle, c'était un peu toujours la même chose. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup forcément qu'Eric soit un peu touché, parce que c'est vrai que dans ma carrière, finalement j'ai été accompagné de plein de gens, évidemment mon staff, mes amis, ma famille, mais aussi
Les mêmes journalistes en conférence de presse.
Les mêmes journalistes, les gens comme Eric, si tu veux, avec qui des fois on se taquinait un petit peu, où il y avait un peu de, forcément toujours un peu de défiance, mais toujours dans la bonne humeur et la rigolade.
Le fameux expert tennis d'RMC, attention.
Exactement.
Elle est bonne, Marion.
Exactement, mais ça me touche beaucoup, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie en dehors de ça, mais oui, moi j'ai des frissons, ça me donne des frissons d'écouter ça. J'ai, comme tu dis, Marion, dans ma carrière, je me suis toujours attaché à ne pas tricher avec les autres, à surtout pas tricher avec moi.
Ouais.
Et ce match-là, c'est vrai que je l'ai abordé, j'avais envie de gagner, en fait. J'étais pas là pour arrêter de jouer. Moi, j'avais envie de gagner.
Bien sûr.
Je savais que il se tramait quelque chose derrière, dans mon dos, mais dans mon entourage, je savais qu'il se tramait quelque chose, mais j'étais, moi j'étais venu pour gagner et pour moi ce match il a été très difficile, ça a été un peu un déchirement parce que justement j'avais envie d'aller quand même au bout. Après, avec le recul, je me dis que c'est une très bonne chose que j'ai pas fini ce match, que je vois pas comment j'en aurais fait un deuxième. C'était un beau match. En tout cas, moi j'ai vécu des émotions contrairement à ce que tout le monde peut penser, des émotions très difficiles, mmh. Mais qui, avec le recul maintenant, sont magnifiques. Et c'est vrai que je crois que je pouvais pas mieux faire qu'un gros combat pour terminer ma carrière.
Absolument. J'aimerais revenir, Joe, si tu le permets, sur un moment charnière pour moi de ta carrière. Donc on se connaît depuis qu'on est vraiment très jeunes. Les équipes de France ont moins de 16 ans à Tchil, on les a joué ensemble. Et je me souviens effectivement de ta très grosse blessure au dos, justement dans ta transition junior-adulte. Et il y a un moment où tu commences l'Open d'Australie 2008 et tu joues contre Andy Murray. Et tu arrives à aller le chercher. Et c'est le début finalement d'une révélation totale. Aux yeux du grand public, tu bats Rafael Nadal en demi-finale, tu arrives en finale de ce tournoi du Grand Chelem en 2008. Est-ce que pour toi, 2008, l'Open d'Australie est réellement le déclencheur de tout, ou finalement tu as senti avant ça que quoi qu'il arrive, tu étais sur le bon chemin et que ça allait passer à un moment et où il a fallu vraiment ce déclencheur pour encore une fois, un petit peu comme chez les juniors, te le prouver?
En fait, c'est vrai que c'est difficile à dire. C'est vrai qu'aux yeux du grand public, forcément, c'est le premier éclat. C'est là où tout d'un coup, je deviens visible. Mais, mais à cette Open d'Australie-là, il me semble que je suis quand même... je ne sais plus si j'étais 39e mondial ou 49e
mondial. Oui, tu es 40e mondial. Oui, absolument.
Je suis 40e mondial. Donc finalement, je ne sors pas de nulle part. Ça veut dire qu'avant ça, j'ai dû faire quelques performances. Surtout que... un an avant cette Open d'Australie-là, je suis 350e mondial. Donc les performances qui ont précédé ça étaient grandes aussi.
Étaient annoncées, oui.
J'ai dû gagner beaucoup de challengers à la suite. J'ai pour aller aussi vite, pour passer en un an, pour que les gens comprennent. En fait, au tennis, même si on est très fort, le problème, c'est qu'il faut le temps de gagner tous les tournois pour pouvoir accéder aux premières places mondiales, entre guillemets. Et ce temps-là, il est incompressible et ça peut prendre un an, deux ans. Moi, je l'ai fait en un an. Je pense que c'est très rapide.
Bien sûr.
Et passer, en gros, de jouer des futurs dans la même année à aller en finale de l'Open d'Australie, je pense que c'est...
C'était la continuité en fait totalement de déjà ce que tu avais pu réaliser sur l'année précédente et ta grande montée au classement. Absolument.
Et avant de battre un joueur comme Andy Murray qui était 6 ou 7 je crois au premier tour de l'Australian Open, j'avais déjà battu des joueurs du top 10. J'avais battu Carlos Moya, j'avais battu Mario Hanchicha à Bercy qui était... et eux je les avais battus avant de ma blessure au dos, donc j'avais quand même une certaine confiance en moi. Je savais que j'étais capable de faire de grandes choses. En plus de cette confiance, était venu se rajouter cette envie de réussir qui avait grandi pendant ma blessure au dos, où pendant deux ans j'ai pas pu trop jouer. Ça a fait en fait que nourrir ma mon envie de victoire et mon envie de travailler, mon envie de m'investir dans ce que je faisais. Et donc je pense que bah, quand je suis arrivé à l'Open d'Australie, j'étais bien mûr et voilà, et le résultat est sorti.
Joe Wilfried Tsonga, notre invité sur RMC dans Bartoli Time, invité de Marion Bartoli, justement l'Open d'Australie. Quand on a préparé cette émission avec Marion, je lui ai demandé voilà, un match de Joe Wilfried Tsonga. Il y en a beaucoup, évidemment, on pourrait faire trois heures
avec vous. On hésitait entre le match contre Roger où tu es mené 2-7-0 à Wimbledon, était le seul joueur quand même incroyable, c'est le stat. Le seul joueur va battre Roger à Wim en étant mené 2-7-0. Donc c'est quand même incroyable. Et on hésitait avec la demi contre Nadal. Bon, voilà. Écoute, on a choisi la demi contre Nadal. Je ne sais pas si on a fait le bon choix, mais on est parti là-dessus.
On va réécouter. On était le 23 janvier 2008. Commentaire en live. Demi-finale, s'il vous plaît, de l'Open d'Australie. La danse des pouces que vous connaissez évidemment de Joe Wilfried Tsonga lors de ce moment fabuleux. Plusieurs années après, il reste des choses encore dans sa tête fraîches de ce match ou non, une vie de sportif de haut niveau, il se passe tellement de choses qu'on finit par oublier.
Alors c'est sûr qu'il se passe énormément de choses, mais il y a quand même des moments qui marquent. Notamment ce match-là, il m'a quand même marqué. Mais peut-être même plus dans ce qui m'a le plus marqué finalement, c'est la préparation du match, plus que le match en lui-même, parce que le match en lui-même, on est dans sa bulle, on est un peu sur une autre planète entre guillemets, on est dans une concentration extrême, et puis le point après point, on essaye d'effacer tout ce qui se passe dans le passé, ça compte plus, c'est toujours devant pour aller battre ce genre de joueur, il faut toujours regarder devant. Mais c'est vrai que bah, dans la préparation, j'étais avec Rafa dans les vestiaires. Rafa, on se connaît depuis qu'on est petit. Dans les vestiaires, il faisait des bonds partout. Moi, j'avais une autre façon. Il sautait en l'air, il faisait des sauts de kangourou incroyables, des trucs, des sprints. Enfin, c'était de la folie. Et moi, j'étais à côté et j'étais dans mon siège. Et ce jour-là, en fait, j'étais comme sûr de moi. En fait, je m'étais bien échauffé, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Mais en fait, j'attendais qu'une chose, c'était d'aller sur le terrain. Je voulais aller sur le terrain et ça c'est la preuve qu'à un moment donné la volonté elle est plus forte que tout, c'est-à-dire que quand on a tellement envie, je pense qu'on notre corps met à disposition ce qu'il faut pour accéder à nos souhaits.
Et je rappelle juste que pour tous ceux qui ne connaissent pas par cœur, et d'ailleurs on va vous fouetter avec du parmesan parce que c'est pas très bien, mais par cœur la carrière de Joe Wilfried Tsonga, il y avait eu quand même 3-7-0 hein, en demi-finale de l'Open d'Australie. Marion.
Il y avait eu une petite fessée, 6-2, 6-3, 6-2. Alors Joe, tu as battu 6 fois Roger, tu as battu 4 fois Rafa et tu as battu 6 fois Novak dans ce fameux quart de finale de l'Open d'Australie en 2010 où tu arrives à le battre en 5-7 en étant mené 2-7-1. Quel est pour toi, bon bien sûr c'est les trois plus grands joueurs de tous les temps avec plus de 20 grands chelems pour les trois, mais est-ce que tu as des tactiques particulières bien évidemment pour chacun, mais est-ce que tu peux nous décrire ce que représentait chaque défi de les affronter, bien sûr en fonction des surfaces, bien sûr en fonction des tournois, mais est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu à nos auditeurs ce que ça représente de jouer contre Roger, contre Rafa, contre Novak et comment justement tu préparais chaque match?
En fait, les matchs je les préparais... on va dire de la même manière que je les ai tous préparés, c'est-à-dire que évidemment que bah, avant le match on voit le coach, on discute, on parle de ce que l'autre fait bien, de ce qu'on va mettre en place pour essayer de gagner. Ensuite, c'est dur de rentrer dans les détails, sinon on en a jusqu'à...
Non, on a du temps, t'inquiète pas, t'es notre invité spécial, t'es notre invité exceptionnel, tu as tout ton temps.
Mais c'est vrai que quand je jouais contre Roger, ce qui est impressionnant avec Roger, c'est qu'il vous laisse pas le temps finalement de vous installer et de jouer votre jeu. En fait, lui, son grand truc, c'est de nous empêcher, nous, de faire ce qu'on a envie de faire. Donc d'être toujours
un peu dans un malaise. Il enchaîne très vite entre les points.
Voilà. Il enchaîne très vite entre les points. Il prend la balle très très tôt, plutôt que tout le monde entre guillemets. Il varie beaucoup les zones. Il varie beaucoup les effets. On ne sait jamais vraiment quelle balle va nous arriver, donc c'est toujours très particulier. Voilà. Alors moi, évidemment, contre lui, l'objectif c'était d'arriver à moi vraiment m'imposer. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'était par la puissance. Et c'était justement de tout faire pour le mettre dans la situation où lui voulait me mettre.
donc
voilà.
Donc service coup droit.
D'être hyper agressif. D'être hyper agressif, mm-hmm. et de pas forcément attendre. Et voilà, après, en fonction des surfaces, ça dépendait un petit peu. Sur terre battue, pour moi, c'était de jouer assez haut sur son revers, parce que c'était la seule chose, entre guillemets, qui le gênait et qui faisait que d'ailleurs Rafa avait quand même un petit ascendant sur terre battue, mm-hmm. sur lui. Voilà, ensuite. Rafa, d'une certaine manière, c'était de pas trop, surjouer. Parce que le problème avec mm-hmm. Rafa, c'est que lui, il fait pas de faute, il donne pas un point, et que souvent on a peur parce qu'il est très puissant, donc il a quand même, faut pas lui laisser le dicter le jeu, sinon on fait que courir. Donc il faut dicter le jeu, mais sans vraiment s'exciter et aller à la faute en fait. Parce que lui, c'est ce qui, évidemment, c'est ce qu'il attend, c'est qu'on force le jeu pour prendre des points gratuits. Donc voilà. Donc contre Rafa, c'était vraiment d'être agressif, mais tout en ayant entre guillemets en étant assez patient et en choisissant très bien les balles pour aller de l'avant. Parce qu'en fait, un joueur comme Rafa, si on accélère alors qu'on est un peu trop loin, on est puni tout de suite. C'est-à-dire que si on fait pas la différence, il nous contre tout de suite, il trouve un angle, c'est redoutable. Djokovic, alors j'essayais souvent de passer en puissance parce que j'avais l'impression que j'avais pas d'autres choix aussi. De passer en puissance, de jouer un peu plus au bluff, d'essayer de temps en temps de faire un retour volé, de retourner un peu de loin, de retourner un peu, d'essayer de le perturber un petit peu, de pas rentrer dans quelque chose de monotone où lui en fait il fait zéro faute et puis
ouais, c'est une machine à balle.
Voilà, donc voilà un petit peu. Après c'était toujours très difficile d'appréhender ces matchs-là parce que c'est des joueurs hyper intelligents qui sont malgré tout capables de changer de fusil d'épaule entre guillemets tactiquement, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ni une ni deux, ils sont capables de trouver d'autres solutions parce que c'est des joueurs très complets qui sont capables de faire beaucoup de choses et donc c'était jamais simple d'appréhender ces matchs-là.
Toujours difficile d'appréhender ces matchs et c'est vrai qu'on rend toujours hommage à ces trois joueurs, mais parfois dans une vie, eh bien, ce sont eux qui rendent hommage et notamment à Joe Wilfried Tsonga. Joe, quand vous avez arrêté votre carrière, c'était le cas de Novak Djokovic. On va l'écouter.
Well, I wish him the best possible farewell.
Je lui souhaite le meilleur adieu possible qu'il puisse avoir de la part du monde du tennis. Je suis sûr que le public sera à fond derrière lui sur le central. Les Français le regardent jouer depuis des années maintenant. C'est un des joueurs les plus charismatiques du circuit. C'était un joueur tellement puissant quand il était à son meilleur niveau, constamment dans le top 10. Je me souviens de notre finale en Australie il y a un moment. J'ai un immense respect pour lui, c'est vraiment un super mec. Il peut être fier de tout ce qu'il a accompli et de la trace qu'il laissera dans notre sport. Everything he has achieved and left
behind in the sport. Hommage également de Rafael Nadal, de Roger Federer. Joe, quand on entend ça, franchement, ça vaut un titre. Non, quand on finit une carrière et qu'il y a des monstres comme ça qui vous félicitent.
Franchement, oui, c'est vrai que quand on est joueur, quand on joue sur le circuit, quand on a l'ambition d'aller chercher le plus haut possible, évidemment, on se retourne pas derrière, on regarde pas derrière, on regarde pas ce qui se passe, on regarde pas si on a gagné tel et tel tournoi, on se réjouit pas d'avoir réussi telle performance. La seule chose qui moi en tout cas m'incombait, c'était vraiment d'aller plus loin, d'aller chercher toujours plus. Et moi, le toujours plus, c'était évidemment le Graal que Marion a pu toucher, la chanceuse. quand je dis la chanceuse, c'est pas au sens
Non, t'inquiète pas, j'avais compris.
Quand je dis la chanceuse, c'est que bah, c'est fabuleux, elle a réussi à aller
mais j'ai eu un peu de chance quand même.
Elle avait un parcours facile quand même. On peut le dire, son parcours facile, hein, Joe. Hein,
c'est vrai. Totalement, non, ça je l'avoue.
Non, mais du coup, c'est vrai que voilà, je me retournais jamais et là c'était l'occasion pour moi de d'entendre des gens parler sur moi et de me retourner sur ce que j'avais fait, sur mes résultats et de pouvoir dire ok Joe, bah t'as donné le maximum, t'étais à fond, maintenant tu peux partir sereinement, tranquillement parce que tu peux te regarder dans la glace en te disant que t'as donné tout ce que t'avais sur le terrain.
Dans quelques instants, Joe Wilfried Tsonga, on va parler de votre après-carrière, de votre nouvelle vie. Évidemment, on a envie de savoir. Juste avant, on est toujours le mardi 24 mai. On parlait du dernier match, de votre dernier match à Roland, de ses adieux, de votre discours. Vous êtes sur le central, entouré de tous vos proches, une immense émotion évidemment. Et vous dites ces quelques mots et j'ai une petite question après pour vous, Joe Wilfried Tsonga.
C'est vrai que j'ai pas très très bien vécu le jeu médiatique qui faisait que c'était un jour fabuleux, un jour mon revers, un jour mon mental. J'étais un jour suisse, un jour fils de père congolais, un jour manceau, un jour noir, un jour blanc, un jour sauveur, un jour héros national, un jour usurpateur, un jour décoré, un jour jeune, un jour vieux, un autre papa. La vie quoi.
La vie quoi. Mot très fort, choisi par vous, vous avez lu votre discours. Joe, d'où est venue, comment est venue cette défiance à un moment donné, cette certaine défiance envers la presse? Est-ce qu'il y a eu une cassure?
Bah, en fait, c'est simple, en fait, c'est pas vraiment une défiance, c'est pas une cassure. Je pense que c'était tout simplement la difficulté. Pour un jeune qui vit de sa passion, qui voit pas de mal dans ce qu'il fait, à finalement être critiqué, à être mis sur un piédestal, et c'est vrai que ce jeu médiatique là, par la suite et avec la maturité, j'ai compris que c'était la normalité, que c'était quelque chose de normal, mais quelque chose finalement de très difficile à vivre pour tous les jeunes, pour tous les jeunes sportifs, pour toute personne en fait qu'on mettrait dans cette situation là et en fait dans le discours c'est pas du tout une défiance, au contraire c'est plus dire voilà, maintenant il s'est passé ça et maintenant j'ai compris en fait à quoi ça servait à me faire grandir et à me faire prendre une certaine maturité et à prendre du recul sur les choses en me disant en fait c'est seulement un jeu.
Voilà. J'imagine, Marion, que tu as connu un peu la même chose d'ailleurs que Joe Wilfried Tsonga.
Non, mais moi je voudrais le dire, tout est la faute d'Éric Sayo. c'est lui le problème. Quand tu te tends un micro après avoir perdu, qui te dit alors, Joe, déçu. Non, comment te dire, je ne suis pas déçu d'avoir perdu. non, tout est de la faute d'Éric en fait.
C'est vrai qu'on s'en rend compte maintenant, et c'est vrai que pour les journalistes qui n'ont jamais été des sportifs de haut niveau, on se rend compte maintenant. Avec parfois le niveau du tennis français, quand il n'y a plus de Joe Wilfried Tsonga, quand Richard Gasquet est sur la fin.
L'âge d'or qu'on a vécu, les 15 ans exceptionnels du tennis français qu'on a eu la chance de vivre avec Joe, avec Richard, avec Gaël, avec Gilles.
Et ça continue. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, en fait, souvent, c'est des histoires d'interprétation. Et en fait, les interprétations, chacun les prend comme il veut. Et c'est vrai que ce discours, évidemment qu'il y avait un message derrière tout ça, évidemment qu'il y avait quelque chose. Mais on l'interprète comme on a envie de l'interpréter. Et pour moi, c'était plus une façon de dire, voilà, c'est terminé. C'était une aventure complète pour moi, dans le sens où j'ai beaucoup appris. Et ça m'a fait grandir.
Mais tu as eu totalement raison de faire cette intervention, et surtout le plus important, ce que tu as ressenti et de le dire. Moi, j'aimerais revenir maintenant sur, entre guillemets, ta retraite, même si j'aime pas forcément ce mot, mais plutôt, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes nouveaux projets aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'inspire? Quelles sont tes nouvelles occupations?
Alors, il y a pas mal de choses, mais je vais être assez concis. Évidemment, ce qui m'inspire, en fait, c'est vraiment de garder un pied dans le tennis, de garder un pied dans le tennis de haut niveau, et puis finalement, d'impacter entre guillemets le tennis de haut niveau, tout en étant finalement assez libre. On a cofondé avec Thierry Assion une académie qui s'appelle All In Academy. On reçoit plein de jeunes qu'on essaye de former un peu avec avec nos valeurs, et essayer de leur transmettre un peu nos expériences, à travers l'entraînement, à travers aussi une façon d'être, on va dire, entre guillemets, hein, c'est pas une secte, mais c'est juste que
tes valeurs, finalement
on y met nos valeurs, nos règles, et puis on espère que un jour on sortira un grand joueur. Après, l'objectif, c'est évidemment de travailler à côté de la fédération, dont c'est le rôle finalement de former les meilleurs joueurs les meilleurs joueurs français. Nous, on est là, on appuie pour ceux entre guillemets qui seraient pas choisis, qui seraient pas les élus. Et donc voilà, nous on essaye de les soutenir et puis de les aider à grandir à travers ce sport qui est magnifique.
Justement, Joël-Fried Tsonga, à chaque fois quand je lis parfois des interviews de vous, on sent que vous voulez vous inspirer les jeunes. Ça, c'est votre leitmotiv, mais même quand vous étiez joueur, c'est ça encore le moteur aujourd'hui, c'est inspirer les jeunes et les faire progresser.
Oui, c'est vrai que en tant que joueur, j'ai toujours voulu être un exemple. C'était un peu une forme de motivation pour moi aussi. De devenir un exemple, hein, entre guillemets, d'influer justement sur ce qui se passe chez les plus jeunes, et là, monter la All In Academy, c'était pour moi justement l'occasion de faire ça, en fait, de continuer de partager, et puis de pas devenir un vieux con, entre guillemets, d'être au contact des plus jeunes et de rester un peu dans le tennis et le tennis de haut niveau.
Sinon, je te propose de partager l'émission avec moi. On fera un Tsonga Bartoli Time tous les dimanches. On va faire 30 minutes chacun. Je crois que tu es devenu aussi directeur de tournoi, non? Tu peux nous raconter un petit peu?
Alors, je ne suis pas directeur de tournoi. Je suis je suis propriétaire de tournoi. Je sais pas si c'est au-dessus ou pas, c'est juste que c'est pas directeur, parce que le directeur, il fait beaucoup de choses, il a beaucoup de compétences. Le propriétaire, souvent,
toi, tu mets les sous.
Il a pas énormément de compétences. Non, je plaisante, mais c'est vrai que aujourd'hui, avec le groupe All In, on possède on est majoritaire dans le tournoi de l'Open 13 à Marseille, également à l'Open Park à Lyon et l'Open de Moselle. On a aussi un challenger à Saint-Tropez et tout ça aussi, ça me permet encore une fois, hein, de garder un pied dans le monde du haut niveau.
Tu sais que challenger à Saint-Tropez, peut-être tu peux donner le wildcard à Neymar, ça peut m'intéresser. Hein. Pense-y.
J'y penserai. donc voilà, en gros, c'est vraiment ça, c'est essayer de garder un maximum un pied dans le tennis, parce que c'est ma passion, c'est ce que j'ai toujours adoré. Alors je fais des petites choses à côté, mais ce que j'aime faire finalement, c'est être au contact des plus jeunes et si possible dans le tennis.
Une vie bien remplie, Marion.
Absolument, et surtout on a adoré t'avoir, vraiment Joe, encore une fois un immense merci, et j'aimerais terminer par une toute petite citation de Charles de Gaulle qui, je pense, te correspond totalement. La difficulté attire l'homme de caractère quand c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Et je crois que c'est vraiment une citation qui te définit parfaitement. Merci, Joe.
À bientôt, Marion.
RMC, 19h20.
Bartoli Time.